Les jardinières.
Bonjour à tous, bienvenue et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre charmante jardinière professionnelle, Cathio Racine, qui nous vient de Delémont.
Bonjour.
Alors qu'on voyait le printemps arriver, ce samedi 17 mars veut nous rappeler que nous sommes encore bien en hiver. Le retour du froid ne nous décourage pas pour autant. Nous, par tous les temps, de 7h à 8h, on s'occupe de vos jardins le samedi matin.
Tels de braves jardiniers et jardinières, brandissez le téléphone pour nous appeler au 0901 70 20 20 pour nous poser toutes vos questions au prix de 36 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire soit par SMS au 939, il vous suffit de taper le mot jardin et de laisser un espace en début de message, soit par formulaire internet que vous trouverez sous l'onglet émission questions jardinières de notre site. Et n'hésitez pas à détailler votre cas pour que Cathio Racine puisse vous répondre au mieux.
Et bien c'est l'heure, c'est parti pour les jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Et nous avons reçu un SMS de Si Bon Matin de la part de José et Nat d'Auvergnier. Elle voudrait savoir pourquoi les bouleaux sont plantés par trois. Cathio Racine, est-ce que vous avez une petite idée?
Alors là, c'est la question qu'il ne fallait pas poser à cette heure-là.
C'est la petite question piège du samedi.
Alors, voilà. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est une règle ou si c'est une question de fertilisation. Ou... Il me semble qu'on voit aussi souvent des bouleaux qui sont plantés en isolé. Donc, est-ce que c'est une question uniquement d'esthétique ou... Je suis vraiment embêtée pour répondre à cette question. Je ne peux pas répondre de façon correcte.
Eh ben, ce que je vous propose, donc, Nat d'Auvergnier, c'est qu'on va reprendre cette question la semaine prochaine et peut-être essayer d'y donner une réponse justement un petit peu plus précise.
On a reçu une question aussi. J'ai acheté différentes plantes aromatiques, persil, ciboulette, basilic. Combien de temps au maximum peuvent-elles rester dans leur pot d'achat? C'est Christiane de Peuzeux.
Alors, ces petites plantes aromatiques qu'on achète dans le commerce sont vraiment des très très petits pots et des substrats très bon marché en fait, qui sont faits uniquement pour un transit. Quand on les achète, il faut déjà vraiment faire attention de bien surveiller l'arrosage parce que souvent ça vient très vite sec parce qu'il y a beaucoup de tourbe dans ce substrat. Donc il faut vraiment faire attention à ça, pas trop les arroser mais garder ça bien humide et puis je dirais maximum 2 semaines dans ces petits pots parce qu'en plus souvent c'est des pots en plastique, donc il n'y a aucune évacuation d'humidité qui se fait, les racines vont pourrir assez vite et puis la plante va en 2 ou 3 jours dépérir. Donc là, au plus vite, les changer, mais maximum 2 semaines.
Imaginons qu'on les ait un peu oubliés, puis qu'on ait passé les 2 semaines, est-ce qu'il y a un moyen de les récupérer ou c'est foutu?
Alors, il y a toujours un petit peu une borderline avec ces plantes. On voit tout d'un coup qu'elles commencent d'être un petit peu moins belles, peut-être de sécher un peu sur les bords. Par exemple, si on prend le basilic, le bord de la feuille commence à devenir un peu brun. Là, on a encore une chance si on prend bien le soin avec un bon substrat ou carrément en pleine terre, ça dépend un peu de la saison, de les rempoter ou de les mettre en place quand il fait chaud. Souvent, ça repart. Mais ça, c'est vraiment un peu une question de jugeote, de voir un peu la tête que la plante est là, de se dire, ben voilà, il y a une chance que ça reparte. Ou alors là, non, vraiment, c'est fini. Parfois, au prix où on les paye, c'est un peu du gaspillage, mais vaut mieux la mettre sur le compost et puis aller en acheter une belle plutôt que d'essayer de la tirer en avant et puis de perdre du temps pour pas grand-chose.
Et pourquoi le basilic, on n'arrive pas à le garder beau longtemps? Pourquoi spécifiquement le basilic? Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai acheté un petit pot de basilic, ça s'est très mal passé. Et il a fini justement au compost. Contrairement à la ciboulette, au persil.
Parce que je pense que vous l'avez laissé trop longtemps dans son petit pot, probablement, parce qu'on est tout content. On a acheté son plant de basilic, on le met sur la fenêtre, on coupe. Puis finalement, il ne peut pas se développer parce qu'il n'a pas les capacités en sous-terre de le faire. Et puis, chez nous, il fait quand même. C'est une plante qui peut être dehors entre fin mai et fin août. Après, c'est fini. Si on le met avant fin mai, il a froid. C'est vraiment une plante qui a besoin d'énormément de chaleur et surtout pas de soleil direct. Donc, c'est un peu compliqué.
Et puis, le faire changer de température un peu trop brusquement, justement, de le rentrer dès qu'il commence à faire froid, c'est peut-être pas forcément bien non plus.
Non. Puis, de toute façon, c'est pas du tout des plantes qui sont faites pour être mises à l'intérieur.
J'ai un olivier en pot que j'ai rentré durant l'hiver et j'aimerais savoir à partir de quand il peut retourner en extérieur et quelles sont les bonnes températures. C'est Lola de la Neuveville qui nous pose cette question.
Alors là, il faut faire attention aussi, parce qu'on revient de nouveau dans, dans cette tranche de plantes méditerranéennes qu'on va devoir rentrer en hiver. Mais à certaines conditions, quand on les rentre, il faut que la température soit assez basse quand même en intérieur, de manière à ce que la plante puisse faire une pause hivernale, comme elle ferait dans son milieu naturel. Et puis, ben, on a tendance, dès qu'il fait beau, par exemple la semaine dernière, on a eu quelques jours de doux, on se dit « Ah ben super, je peux commencer de préparer ma terrasse, j'ai envie de mettre mon olivier dehors. » Puis c'est là que souvent l'erreur se fait. Parce que, ben, on voit bien cette semaine, il fait assez froid, il fait très humide, il fait très brouillardeux, et puis c'est ça que ces plantes n'aiment pas. Donc là aussi, il faut vraiment avoir la patience, pas être trop pressé, il faut les sortir aussi début mai. C'est au plus tôt, c'est vrai qu'on est toujours tellement pressé de préparer tout ça, mais il faut vraiment y aller gentiment. Et puis aussi, encore une fois, c'est pas des plantes qu'il faut mettre en plein soleil au sud de la maison où c'est qu'il fait très chaud d'un coup, parce qu'il y a toujours ces chocs thermiques qui sont pas bons du tout pour ce genre de plantes.
Un olivier, est-ce que ça peut être comparé à un autre arbre qui serait du même style et qui justement ne devrait pas être sorti maintenant ?
Ah bah, typiquement les citronniers, tout ce qui est palmier, toutes ces plantes méditerranéennes qu'on trouvera sitôt qu'on va au sud de l'Italie ou alors au nord de l'Afrique. C'est toutes ces plantes-là qu'on peut avoir chez nous, mais qui vraiment ont besoin de cette douceur, de cette chaleur et puis surtout pas d'humidité d'hiver en fait.
Parce que de toute façon, si on le garde en intérieur, il risque rien. Même si on le garde un peu trop longtemps, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Ou bien...
Exactement. Non, non, il vaut mieux les garder à l'intérieur, toujours faire bien attention qu'il ne fasse pas trop chaud, parce que c'est des plantes qui ont vraiment besoin de cette pause. Mais après, si par exemple, maintenant, vous avez cette plante à une place où il fait 5-6 degrés l'hiver, et puis que gentiment, vous le mettez dans une véranda où il fait un peu meilleur, et bien maintenant, on est au printemps. Donc logiquement, dans son cycle naturel, il va commencer de redémarrer. Donc ce n'est pas un problème. On peut le remettre dans l'appartement, à l'intérieur, et puis commencer de l'arroser, de remettre un petit peu de l'engrais, lui aider à se réveiller finalement.
Yves de Cortaillot nous a écrit « Est-ce que vous avez une astuce qu'as-tu racine pour répandre de l'engrais sur son gazon de manière régulière ?»
Alors ça, c'est assez compliqué d'épandre cet engrais à la main de manière régulière. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait plus. Autrefois, ils lançaient la graine aux poules. Et ben, c'est exactement le même mouvement, en fait. C'est quelque chose qu'on apprend quand on fait un apprentissage de paysagiste. On lance cet engrais très haut avec un certain mouvement de la main. C'est assez difficile de le faire quand on n'a pas appris. Pourquoi ? Parce qu'on va marcher soit trop vite, soit trop lentement. On va ouvrir sa main soit trop tôt, soit trop tard. Et puis finalement, si on le fait comme ça, ben quand le gazon poussera, on verra exactement où s'est déposé l'engrais, ce qui fait des grands arcs en général dans le gazon, puis c'est pas très très joli. Si on veut vraiment le mettre à la main, il faut vraiment le lancer très haut, ouvrir sa main de manière régulière de gauche à droite et quadriller son terrain, c'est-à-dire qu'il faut une fois aller dans un sens et une fois dans un autre de manière à faire un quadrillage. Après, il y a une chose qui est un petit peu plus simple, c'est d'acheter un épandeur d'engrais que vous trouvez dans les commerces pour pas grand-chose. Et puis, c'est avec deux roues, vous poussez ça dispense ce dont ça a besoin. Et puis, encore une fois, là, c'est bien de quadriller aussi, passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
Merci, Cathy Racine. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes les questions jardinage de vous, auditeurs, qui vous êtes levés tôt ce matin. Comment est-ce que vous pouvez poser vos questions ? C'est tout simple, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20. Ça coûte 36 centimes la minute et avec ça, vous pouvez poser directement votre question à Cathy. Vous pouvez également nous écrire, soit par SMS au 939. Il vous suffit de taper le mot « jardin » et de laisser un espace en début de message, puis suivi par votre question. Il y a également le formulaire internet que vous trouvez sur l'onglet émission sur nos sites, justement.
7h, 8h, les jardinières.
Avec un accent anglais mauvais ou sans accent du tout, vous pouvez nous appeler au téléphone au 0901 70 20 20 jusqu'à 8h pour poser vos questions de jardinage à Cathy Racine qui est là avec nous ce matin pour répondre à toutes vos questions. Et Janine Desverrières a eu cette bonne idée. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Janine.
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute, Janine, pour votre question.
Oui, bonjour. Alors, écoutez, j'aurais voulu savoir si je peux traiter ou quand je peux le faire. J'ai deux petits fruitiers et j'aimerais les traiter à la bouillie bordelaise pour éviter les bestioles.
Bonjour. Alors, bonjour, vous pouvez le faire à peu près maintenant. C'est quelque chose qu'on fait quand les bourgeons des feuilles donc sont prêts à éclore. Donc, tout dépend un peu où vous vous trouvez, puis selon les variétés de fruitiers que vous avez, on arrive gentiment dans ces temps-là. La bouillie bordelaise, donc chez nous, c'est le cuivre, hein, tout simplement. On trouve le cuivre, et puis c'est un traitement qui est efficace contre les maladies, surtout ce qui est plante en général du jardin. Et puis, ce qui est bien de faire, si vous prenez la peine de le faire, ça serait de mélanger avec une huile d'hiver qui protégera aussi contre les parasites, au même titre que la bouillie bordelaise contre les maladies.
D'accord, mais je suis à 1000 mètres, je peux le faire, faut que j'attende qu'il fasse moins 3 ou bien ?
Alors oui, de toute façon, la semaine qui vient, là, tout ce qui est traitement, va falloir oublier, parce que de toutes les manières, même si vous le faites, puis qu'il vient à pleuvoir ou à neiger dessus, ça ne servira à rien. Et puis, il faut vraiment observer les bourgeons sur les rameaux. Sitôt qu'ils sont très, très gonflés, prêts à éclore, vous pouvez traiter. On a en général 10 jours à peu près pour faire cette opération.
D'accord. Éviter de faire avant qu'il pleuve, bien entendu.
Oui, il ne faudrait pas qu'il pleuve pendant 12 heures minimum, 24 heures, c'est l'idéal.
Ok. Très bien.
Merci, Janine.
Merci. Bonne journée.
À vous.
Au revoir. Merci, au revoir.
Et on va revenir sur la question qu'on a reçue tout à l'heure de José et Nat d'Auvergne. Cathy, vous avez fouillé dans votre mémoire du samedi matin.
Oh
et vous,
oui.
il nous posait donc cette question, pourquoi les bouleaux sont plantés par trois? Et vous avez une réponse à nous donner.
Voilà. J'ai réfléchi un petit peu à ça. Et puis c'est vrai que quand on regarde ces bouleaux, on les voit parfois isolés et puis parfois en groupe de trois. Ces groupes de trois, c'est simplement une culture en fait traditionnelle qu'on appelle une plantation en CP. On met trois arbres dans le même trou et puis ça donne cette impression de bosquet quand ils ont grandi. C'est des arbres qui se prêtent très bien à la culture en groupe, donc ils peuvent être très proches l'un de l'autre ou alors en culture solitaire. Donc c'est vraiment pas du tout une obligation, c'est uniquement une question esthétique pour donner cette impression de trois troncs, maintenant trois, quatre, cinq. Après c'est une question de place, hein, parce que le bouleau c'est quand même un arbre qui pousse très très vite, donc on pourrait en mettre plus, mais le problème qu'il y a c'est qu'après il y aura un dominant qui étouffera les autres, donc trois c'est l'idéal. Voilà la réponse à la question.
Merci Cathy.
Nous avons reçu une question par SMS. Alors j'ai des cotonasters, c'est ça? C'est juste
cotonasters. Oui.
Cotonasters dans un terrain en pente. Et quelle est la meilleure façon d'en venir à bout et que cela ne repousse pas?
Alors bien du courage. Le cotonéaster est la plante à peu près la plus résistante qui existe dans nos régions. En plus, si vous vous rappelez bien, fut un temps, il y avait le feu bactérien. C'était une maladie qui a été quelque peu éradiquée maintenant. Et ces cotonéasters sont le départ du feu bactérien. Donc c'est pour ça qu'on n'en voit plus beaucoup chez nous, parce que il y a eu beaucoup d'arrachage de ces cotonéasters. Il faudrait les traiter vraiment avec un herbicide total dans une période où il fait très très chaud, et puis il faudrait presque faire ça par un professionnel, parce que les produits que le public peut acheter dans les magasins à présent est très peu fort. Il est efficace sur des herbes, sur tout ce qu'on peut trouver dans le jardin qui est herbacé, mais le cotonéaster vient un ligneux, donc ça veut dire qu'il a du bois. Et si on va avec les herbicides qu'on trouve dans les commerces maintenant, c'est assez compliqué de venir à bout. Donc moi, je conseille à cette personne de prendre contact avec un jardinier qui viendra traiter ses cotonéasters avec des produits professionnels et puis qui pourra en venir à bout. C'est vraiment très, très compliqué.
Merci Cathy Racine. On rappelle que vous êtes avec nous encore jusqu'à 8 heures. Éric Deverme nous a envoyé un SMS, une question qu'on va poser juste après notre petite pause musicale météo et inforoute. Mais bien sûr, il y a plein de moyens pour poser nos questions dans les jardinières.
Vous pouvez faire comme Eric et nous envoyer un SMS au 939. Vous tapez le mot « jardin » en début de message, un espace avant votre question. Il y a aussi le formulaire internet que vous trouvez sur notre site. Et bien sûr, le numéro de téléphone 0901 70 20 20 pour toutes vos questions en direct avec Cathy Racine.
7h, 8h, les jardinières.
répondre à toutes vos questions de jardinage, c'est l'affaire des jardinières jusqu'à 8h. Une invitée de marque pour cultiver notre savoir, c'est Cathy Racine, jardinière à Delémont, qui est avec nous ce matin.
Cathy, attend vos appels au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez discuter directement avec notre professionnel. Si vous préférez qu'on pose la question pour vous, vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin, un espace, votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières. Et par écrit, n'oubliez pas de nous donner un maximum de détails pour une réponse des plus complètes.
On en parlait tout à l'heure, c'est Eric Deverme qui nous a envoyé un SMS et il nous dit qu'il aimerait planter un arbre fruitier et qu'il aimerait savoir quel est le meilleur moment et comment le planter. Cathy Racine, est-ce que vous pouvez aider Eric ?
Oui, bien sûr. Le meilleur moment, ça dépend un petit peu de comment l'arbre fruitier est acheté. S'il est acheté en pot, c'est-à-dire en pot de culture, on peut planter ça gentiment maintenant. Il faut juste attendre un tout petit peu que le temps s'améliore. Mais tout ce qui est en pot et puis en fait qui est en arrêt de végétation, parce que maintenant les arbres fruitiers qu'on trouve dans les commerces sont prêts à bourgeonner, donc ils ont été en arrêt de végétation, on peut les planter au début du printemps de manière à ce qu'ils reprennent en cours de route la saison et qu'ils soient en place directement dans la terre. Donc là, s'il veut le faire maintenant, il achète son arbre fruitier, il enlève le pot, il va un petit peu défaire la motte de manière à aérer un petit peu ses racines qui sont souvent, comme on l'a dit avant, dans des pots en plastique super compressés avec un terreau qui n'est pas forcément de super qualité. Et puis il va creuser par contre un trou qui est assez grand, de façon à ce qu'il puisse mettre dans ce trou un bon terreau, un bon substrat, soit qu'il aura acheté, soit qu'il aura préparé lui-même, de manière à ce que cette motte vienne poser sur une terre qui est bien aérée, bien prête, et puis avec beaucoup de fertilisant dedans. Si on le met comme ça, puis qu'on recouvre avec la terre qu'on a dans nos régions, cette terre, souvent, elle est épuisée, elle est trop lourde, elle est pleine de cailloux. Donc, ce n'est pas très optimal pour le démarrage de ces arbres fruitiers. Après, une fois qu'ils sont en place, il n'y a plus de problème. Ils se font très bien au sol. Mais pour le démarrage, il faut un petit peu leur mettre les coconnets, comme on dit, et puis mettre vraiment du bon terreau. Donc, il fera ce trou, il mettra un bon terreau. Et puis, il fera bien attention de suivre avec l'arrosage, parce qu'au début on se dit c'est bien humide dans nos terres, mais souvent quand il vient le printemps puis qu'il vient un peu plus chaud, ça se dessèche quand même très très vite, et puis l'arbre a du mal de prendre parce qu'il manque d'eau. Donc là, il faudra bien vraiment qu'il arrose, et puis en général ça doit bien se passer.
On va continuer de parler de terreau, mais pour les orchidées cette fois, avec Julie de Saint-Imier qui se demande: que se passe-t-il si j'utilise un terreau pour fleurs normales au lieu d'un terreau spécifique pour mon orchidée? Est-ce vraiment nécessaire et quand faut-il apporter ce terreau à la plante?
Alors, si on met un terreau normal à une orchidée, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va manquer d'air. L'orchidée, dans la nature, c'est une plante parasite. C'est-à-dire qu'elle va s'accrocher sur un support, qui sera un arbre, un tronc ou quelque chose, avec ses racines qu'on voit toujours sortir du pot. Quand on les achète, on se dit toujours « Oulala, il faut que je rempote parce que ça sort ». Non, c'est normal. Cette plante a besoin de sortir ses racines parce qu'elle cherche à s'accrocher à quelque part et à capter l'humidité de l'air. Donc, pourquoi dans nos régions, quand on achète ces orchidées, elles sont dans des pots transparents avec en général des copeaux de bois? C'est simplement parce qu'elle a besoin d'avoir les racines qui ont de la lumière. Elles ont besoin d'aération des racines. Donc forcément, si on met du terreau, on va boucher toute cette aération et puis la plante va dépérir parce qu'elle va s'étouffer et elle aura beaucoup trop d'eau stagnante si on laisse un terreau normal. Donc il faut vraiment un pot transparent avec des copeaux, de manière à ce qu'il y ait quand même une humidité qui soit captée dans ce pot, ce qui représentera finalement ce qu'elle trouve dans la nature, dans son milieu naturel, toute cette humidité ambiante. Et par contre, il y aura aussi vraiment bien de l'aération entre ces copeaux. Donc c'est vraiment ce qu'il lui faut, quoi. L'orchidée qui a trop d'eau stagnante va mourir. Ça, c'est clair et net.
Les copeaux qu'on utilise, ça peut être des copeaux vendus dans le commerce, tout à fait normaux, c'est pas rien de spécifique.
Non, il faut juste faire attention. Si on achète vraiment du copeau dans le commerce qui n'est pas fait pour l'orchidée, il y aura peut-être trop d'acidité. C'est plutôt des copeaux qui sont faits pour couvrir la terre, donc elles sont peut-être traitées. Il vaut mieux acheter un substrat exprès pour les orchidées. On trouve ça en petits paquets et puis c'est vraiment adapté pour l'orchidée.
Si je sème des radis roses ce mois de mars dans mon potager, combien de temps faut-il attendre pour avoir une première récolte, nous demande Roger de Courroux.
Alors, les radis, c'est une des cultures les plus faciles qui existent. D'ailleurs, quand on est petit, on a tous semé des radis à l'école, hein, en général.
Ah oui, c'est vrai.
Il faut compter environ, quand on va à la bonne saison, c'est-à-dire maintenant, si on le fait maintenant, on peut le faire maintenant, mais il faut le faire sous serre ou il faut que ça soit couvert, isolé du froid. Mais si on le fait en pleine terre, dans les bonnes saisons, on compte entre 8 et 9 semaines, entre le départ du semis et la récolte du radis. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que souvent, ben, on se dit ah, ben, ça pousse facilement, alors on sème ça à la volée, et puis on laisse un petit peu venir, et c'est dommage, parce que la densité de graines sera tellement grande qu'en fait, rien ne va pouvoir se développer comme il faut. Donc on va avoir tout plein de tout petits radis qui ne seront pas forcément très très bons. Ce qu'il faut faire, c'est semer en ligne, des lignes espacées de 20 à 30 cm, faire une bande de semis, c'est-à-dire qu'on va semer en ligne droite. Et puis quand ça aura germé, quand ça sera un petit peu sorti, il faut faire un éclaircissage. C'est-à-dire qu'on va enlever les plantes les plus faibles qui sont entre et on va laisser tous les 2 à 3 cm un beau plant de radis, une belle plantule. Et puis là, ce radis aura la place pour se développer comme il faut et puis faire vraiment un beau radis.
Il y a une question de Samuel de Miécourt qui parle de récupération d'eau. Alors, il se demande comment justement c'est possible de récupérer l'eau de pluie dans le jardin, quels moyens on peut utiliser et puis dans quelle mesure on peut après utiliser cette eau, qu'est-ce qu'elle a en plus, etc.
Alors, c'est très bien de récupérer l'eau de pluie parce que chez nous, on en a quand même pas mal qui tombe. Donc, ça vaut la peine de récupérer ça pour faire l'arrosage. On économise quand même à peu près la moitié de sa consommation d'eau. Le moyen le plus courant chez nous, vu qu'on a des chenaux à nos toits, c'est d'installer un récupérateur d'eau là-dessus. C'est-à-dire que sur la chenaux qui descend, on va mettre une sortie qui viendra raccorder sur un fût qui est fait exprès pour récupérer l'eau de pluie. Il y a juste 2-3 choses à faire attention. Ce fût d'eau de pluie devrait, dans l'idéal, être mis au nord. Pourquoi ? Parce que si en été, il fait très chaud et puis qu'on a le fût d'eau de pluie qui est en plein au sud, il va se développer des larves de moustiques, enfin toutes sortes de petites bestioles, des algues, plein de choses là-dedans. Donc là, il faut faire attention que ça vienne au nord. Il faut faire attention que la surface soit bien plane. De manière, en général, ces fûts sont assez grands, hein, c'est minimum 300 litres. Donc si ça tombe ou si ça se renverse, ben, c'est un petit peu dommage. Et puis, il faut aussi qu'il y ait toujours un couvercle, aussi pour qu'il ne vienne pas dedans de maladies ou qu'il tombe des feuilles, enfin, tout plein de choses qui pourraient polluer cette eau. Et puis ensuite, cette eau, on peut vraiment l'utiliser pour l'arrosage. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de chlore et puis elle n'est pas traitée. Donc c'est une très bonne eau. Par contre, elle n'est pas consommable. Il faut quand même faire attention à ça. C'est pas du tout consommable. Voilà.
Comment on peut voir si une eau n'est pas bonne, si elle a mal tourné ou s'il y a des maladies qui se sont mis dedans? On peut le voir comme ça à vue d'œil?
En général, l'eau qui vient d'une couleur douteuse, il faut oublier. Après, c'est clair que si c'est pour de l'arrosage, ça risque pas grand-chose parce que quand même, la terre filtre. Hein, quand on arrose son jardin, la terre, elle a aussi une action de filtre. Donc là, on risque pas grand-chose. Après, c'est clair qu'on va pas arroser une salade qu'on va manger le lendemain avec de l'eau qui est blanchâtre ou qui a une couleur un peu bizarre, mais l'eau n'est pas mauvaise, il viendra des algues dedans, c'est plutôt compliqué à utiliser et puis sale que mauvais.
Et justement, bah, comme vous disiez qu'elle n'était pas consommable, c'est pas grave si on arrose bah, nos légumes avec et puis qu'après qu'on consomme les légumes, ça n'a aucune incidence.
Non, c'est vraiment, du tout. Voilà. C'est vraiment pour l'organisme, c'est pas bon de boire cette eau-là parce que quand même, bah, on voit très bien quand il pleut, tout vient noir. Donc il y a quand même quelque chose dans cette eau de pluie qui n'est pas très bon. Mais après, pour arroser les plantes et puis les plantes en elles-mêmes ne sont pas du tout polluées par ça.
Merci Cathy Racine, vous êtes avec nous jusqu'à 8h, vous avez encore quelques minutes pour profiter de tout son savoir. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939, vous tapez le mot jardin, un espace avant votre question. Il y a aussi le formulaire que vous trouvez sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières.
Les jardinières.
Pauline de Cortébert a une question pour vous, Cathy Racine. Comment distinguer l'ail des ours du muguet ?
À l'œil, ce n'est pas forcément flagrant si le muguet n'est pas en fleur. Par contre, si vous prenez la peine de vous baisser et de frotter un tout petit peu la feuille avec vos doigts, vous allez tout de suite voir la différence, enfin sentir la différence, pas la voir. Parce que l'ail des ours, dès qu'on le touche un peu, dès qu'on le bouge, il sent très très fort. Il a vraiment une odeur très particulière. Donc voilà, on peut, sans devoir goûter, simplement frotter un petit peu la feuille et sentir ses doigts. Puis on aura vraiment cette odeur d'ail qui en ressort.
C'est quelque chose qu'on peut cueillir donc très facilement dans nos régions, l'ail des ours.
Oui, il y en a pas mal.
Il y a quelque chose à faire attention pour justement ben, peut-être cueillir les bonnes choses, à part l'odeur.
Non, pas plus
vraiment
que ça.
L'apparence,
il faut juste faire attention quand on le récolte dans la forêt, c'est de ne pas l'arracher. C'est dommage parce que si on l'arrache, on ne favorise pas sa prolifération. Donc, si tout le monde arrache l'ail des ours dans la forêt, ben finalement, d'ici quelques dizaines d'années, il n'y en aura plus du tout. Donc, il faut vraiment faire attention de le couper et de ne pas l'arracher.
On parlait avant de récupérateurs d'eau pour l'eau de pluie. Et là, on avait une question de Jean de Porrentruy qui, justement, a un grand récupérateur d'eau qui est malheureusement envahi par les algues. Alors, est-ce que vous avez un petit conseil, une petite astuce pour éviter que ça se propage ?
Alors, je pense qu'il faudrait déjà qu'il obscurcisse complètement ce récupérateur d'eau, parce qu'on sait bien que les algues se développent avec une forte lumière et une forte chaleur. Donc, probablement que ces deux paramètres doivent être sur place pour que ça arrive dans son récupérateur d'eau. Donc, il faut qu'il obscurcisse, soit qu'il l'habille avec quelque chose de joli en bois autour, ou peut-être simplement une toison foncée. Et puis, il faut bien surtout le couvrir, parce qu'évidemment, tout ce qui tombe dans ce récupérateur d'eau, il peut tomber des micro-organismes qui prolifèrent, qui donnent lieu à habiter ces algues dans ce récupérateur d'eau. Donc vraiment, le couvrir, l'obscurcir, et puis comme je l'ai dit avant, plutôt le mettre au nord, où c'est qu'il y a un peu moins de luminosité, et puis surtout, pas de soleil direct. Je pense que c'est ce genre de choses qui favorisent ça.
Raphaël de Mauvelier se demande, est-ce qu'il faut traiter et donner de l'engrais aux framboisiers au printemps ? En fin de saison, ils ont beaucoup de pucerons. Ils ont eu beaucoup de pucerons.
Les traiter, je ne pense pas que ça soit très, très utile. Les pucerons, ils apparaissent quand même aussi en fin de saison, selon la saison qu'on a eue. Le puceron apparaît quand on a une saison qui est très, très chaude et humide. Par contre, de leur mettre de l'engrais, c'est une très bonne idée, surtout si les framboisiers sont en place depuis longtemps. La terre s'est probablement appauvrie. Et puis, le framboisier est un peu plus faible et le puceron va se déposer sur ce qui est plus faible, évidemment. C'est comme nous quand on tombe malade. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, l'idéal, ça serait maintenant ou peut-être d'ici 2-3 semaines de mettre un engrais pour baies et fruits. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique pour ces plantes-là. Et puis, de faire un apport de terreau pour qu'il y ait aussi peut-être un nouveau terreau qui soit un peu mélangé à la terre. Et puis l'engrais, on peut le donner 2 à 3 fois dans l'année de manière à ce que la plante soit vraiment bien forte et puis résiste justement à ces attaques de diverses parasites ou diverses maladies tout au long de l'année.
Est-ce que les pucerons peuvent être vraiment nuisibles aux framboisiers ou ils peuvent vivre avec ?
Non, pas du tout. On en voit déjà très très rarement sur les framboisiers, les pucerons en général, parce que le framboisier est un ligneux, et puis c'est vrai que les pucerons vont pas volontiers là-dessus. Et puis non, ils vont pas tuer le framboisier. Ce qu'il y a, c'est que la récolte va être beaucoup plus faible. Et vu que la plante est plus faible, la récolte est plus faible.
Il faut pas manger les pucerons sur les framboises.
Non, c'est pas super. C'est pas, mais ils vont pas se mettre sur les framboises, non, de toutes les manières. Ils vont se mettre sur les feuilles.
Ah, c'est vrai, c'est que sur les... Bon, voilà. Autant pour nous. Il est 7h54, Cathy Racine, on a notre petite question habituelle. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de jardiner, qui trépignent d'impatience, mais qui ne savent pas trop quoi faire ? Qu'est-ce qu'on peut commencer dans le jardin, à l'heure actuelle ?
Alors, dans le jardin lui-même, normalement, les grands fans de jardin ont déjà préparé le sol pour planter leurs semis. Alors justement maintenant, pour ceux qui débutent, on peut faire des semis soit sous des protections, des petites couches ou en serre, ou alors à l'intérieur de la maison. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Donc préparer ces semis qui viendront mis en place dès que le temps le permettra. Après, dans le jardin, là, on est vraiment maintenant en stand-by parce que tous les travaux d'hiver sont terminés. Les travaux vraiment de printemps, eh ben, on peut pas tellement les faire parce qu'il n'y a rien qui a vraiment démarré. Donc voilà, plutôt préparer ses semis, et puis pour ceux qui l'ont pas encore fait, préparer les plates-bandes de jardin afin que dès qu'il fasse beau, on puisse mettre ces petites plantes en place.
Et les petites fleurs maintenant, c'est encore trop tôt?
Alors on peut mettre des primes verts, des pensées, des choses comme ça, mais attention avec les gels qu'ils annoncent en début de semaine. Pour ceux qui ont regardé la météo, ils annoncent des moins 8, moins 9 la nuit. Rentrez tout ce que vous avez mis en pot à l'extérieur, même si c'est des primes verts ou des choses comme ça, parce que de toute façon, ça va pas tenir. C'est des fleurs qui qui sont cultivés en serre. Et tout d'un coup, on va les mettre à moins 9, moins 10 la nuit, donc rentrer tout ou couvrer. C'est vraiment important.
Merci Cathy Racine d'avoir partagé ce moment avec nous ce matin. Belle
avec
journée.
Plaisir.
À
merci
très bientôt.
De même.
Les jardinières, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine de 7h à 8h tous les samedis.
Si dans le courant de la semaine, une question vous vient en tête, n'attendez pas, envoyez-la nous par SMS au 939 en inscrivant le mot « jardin », un espace avant votre question, ou par formulaire internet sur notre site. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bye bye.
7h, 8h, les jardinières.